Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Louis.
Au début des années 80, donc j'avais 11 ans à peu près, j'ai un père un peu particulier qui m'a appris la survie jeune et qui m'a fait voyager très tôt en fait dans les pays communistes. Donc on a passé le rideau de fer, j'étais très jeune, en Hongrie, comme en Bulgarie, en Roumanie surtout.
Qu'est-ce qu'il faisait votre père ?
Mon père était ingénieur acousticien. Voilà, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je pense que j'ai aussi pris conscience en fait de l'importance de la parole et du récit, de la narration, d'être capable effectivement de raconter une histoire et finalement d'être simplement un vecteur entre un vécu singulier, une expérience personnelle et le fait de le transmettre finalement à d'autres.
Parce que du coup, quand vous rentriez de tous ces voyages, vous faisiez le récit à l'école de ce que vous aviez vécu et vous sentiez que tout le monde était fasciné par vos paroles ?
Bah du coup, oui, j'existais. J'existais par la singularité des expériences vécues.
Cette année, Louis Média est partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui se déroule jusqu'au 26 septembre et qui donne à voir des œuvres qui racontent notre époque. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Stéphane Gladieux. D'abord reporter, il s'est peu à peu tourné vers le portrait et s'il continue de publier dans la presse, il se concentre de plus en plus sur son travail personnel et artistique et s'intéresse à la frontière entre le réel et l'irréel. À Arles, il expose une série sur la Corée du Nord, dont il s'est demandé comment se fait-il qu'elle n'ait jamais vacillé alors que tant d'autres régimes autoritaires se sont disloqués. Il a donc obtenu des autorités le droit de photographier les citoyens. Il pose de manière frontale, une médecin et sa patiente, le stéthoscope de l'une posé sur le bras de l'autre et toutes deux regardant fixement l'objectif. 5 baigneuses dans une piscine, flottant dans leur bouée et se tenant les unes aux autres, sagement organisées face aux photographes. Stéphane Gladieux capture des images rares en jouant avec les codes de la propagande. Je l'ai rencontré pas loin de son exposition, dans le jardin de la maison dans laquelle il loge, avec d'autres artistes, à Arles. Elle est à quelques mètres du Rhône, et vous entendez le vent dans les arbres, une ou deux voitures qui passent, pas très loin, le frôlement des chats qui se déplacent sur les lattes de bois de la terrasse, et si vous tendez l'oreille, peut-être même les moustiques qui nous dévorent. Je suis Charlotte Pudlewski, bienvenue dans Fracas.
Il y a eu plusieurs accidents. Bon, je crois pas vraiment aux accidents, mais ça s'est pour le coup passé comme ça. À 14 ans, j'ai deux obsessions. Finir le voyage de Roland et Sabrina Michaud dans le Waran en Afghanistan, caravane de Tartarie. Et je suis fasciné par la guerre au Liban et par ce que vivent les Libanais, la monstruosité de cette guerre, la monstruosité de ce que vit ce peuple. Donc, je pense que le rapport en fait à l'humanisme, il arrive assez tôt et en même temps je suis fasciné par l'économie et en fait je démarre par des études d'économie et suite à une erreur en fait d'inscription à la fac, je me retrouve à perdre en fait l'année et je décide d'en faire quelque chose et de retourner en fait en Roumanie où j'étais allé en 81, où on a vu un accident de voiture qui nous avait conduit à être arrêté puis à rencontrer un des chefs en fait de la contrebande du nord de la Roumanie et j'essaie de repartir en fait là-bas et je choisis de prendre un appareil photo pour documenter en fait ce que je pourrais réussir à voir. Donc je vais rentrer en contact avec la dissidence. Je suis jeune, hein, j'ai à peine 19 ans et je rentre en Roumanie sous Ceausescu donc en 89 avant la révolution, fin 88 début 89. Et je vais faire je vais passer 17 jours là-bas et je vais commencer en fait à faire des photos. Et en revenant, j'abandonne l'idée d'être en fac d'économie. Je rentre en école de journalisme et dans la foulée, je travaille effectivement à Radio Tour Eiffel. Et puis je commence à écrire les premiers papiers en école de journalisme. Et là, en fait, je me rends compte effectivement que je vais avoir un problème. C'est le fait de pouvoir canaliser ma pensée. Et finalement, à quel moment est-ce que l'on doit s'arrêter, finalement, de revenir sur ces mots lorsqu'on écrit? Et c'est quelque chose qui me paraît abyssal, en fait. C'est-à-dire que je suis jamais, en fait, satisfait de ce qui est écrit ou de ce qui est, ou de ce qui est dit. Et je découvre dans la photo ce côté, cette intransigeance de l'immédiateté de l'instant. C'est sans concession. C'est bon, bien cadré, bien composé, avec effectivement un sens effectivement perceptible très rapidement, un sens narratif hein, dans la narration, ou pas. Et ça me convient bien. C'est effectivement, c'est frontal, c'est cash, c'est direct. Et en fait, je choisis en fait la photographie finalement pour ça.
Donc en fait, c'est plus le geste photographique qui vous semble plus pertinent pour vous que les mots, plutôt que le sens qui peut être produit ou par les mots ou par la photo.
En fait, la photo, elle induit pour moi une multitude d'évocations. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut y arriver aussi par le texte, par l'écrit. Moi, j'en suis incapable. j'en suis proprement incapable. Donc, oui, je pense que j'avais une relation peut-être trop, je sais pas, peut-être trop cartésienne à vouloir effectivement espérer pouvoir démultiplier comment les idées et leur complexité. Et j'aimais dans la photographie ce côté à la fois poétique, esthétique, structuré. Je suis un très grand fan de la structure, du nombre d'or, des compositions, que ce soit en peinture ou en architecture. Et tout ça, pour moi, a un sens. Quand je le regarde, que ce soit à travers l'émotion que ça procure, l'équilibre, la puissance, ça a un sens. Et la photo, pour le coup, le langage photographique permettait tout ça, c'est-à-dire à la fois de la construction et en même temps, d'un point de vue comment narratif, du sens, de pouvoir comment l'aborder sous différents angles.
Au départ, donc, vous êtes photo-reporter, vous avez couvert énormément de conflits, à peu près dans toutes les régions du monde. Comment est-ce que vous tissiez du lien en tant que photographe sur le terrain? Comment est-ce que vous approchiez les gens et comment est-ce que vous leur parliez?
Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le caractère immersif. C'est-à-dire, c'est vraiment rentrer, vivre, en fait, avec les gens. Donc, les sujets que j'ai pu faire, j'ai à chaque fois passé du temps, le temps qu'on nous accorde, ce contrat de plus en plus, mais c'est des sujets où je passais du temps. Plusieurs mois sur sur un sujet, plusieurs semaines, et donc de vivre avec eux jusqu'au moment où où on est oublié. Donc c'est à un moment donné de réussir en fait à les apprivoiser et à être apprivoisé. Donc effectivement c'est un dialogue qui passe ou par le langage direct, effectivement par l'anglais ou par l'intermédiaire effectivement de quelqu'un avec lequel je travaillais sur le terrain, mais avec ou sans le langage, de finir par être accepté et que la présence ne soit plus un poids, un peu un rapport éthologique d'ailleurs que j'aime bien, qui a beaucoup été développé, je trouve, par Raymond Depardon, qui était extrêmement proche de ces sujets au départ et qui s'est éloigné de plus en plus pour éviter l'interaction. Forcément, il y en avait une, mais j'essayais en fait finalement d'être oublié pour pouvoir travailler et être au plus près finalement d'eux et d'essayer de m'effacer, ce qui est pas facile parce que je prends un peu de place, mais de façon assez surprenante, ce qui a été certainement le plus difficile et en même temps le plus satisfaisant, ça a été le travail que j'ai fait sur la communauté Harki au début des années 2000, où j'ai travaillé pendant 8 mois dans la communauté Harki à essayer de documenter en fait ce qu'il restait des principaux camps de Harki qui avaient été montés à partir de 1962 quand ils sont revenus d'Algérie. Et ça a été extrêmement compliqué, extrêmement douloureux même. Parce que même si je travaillais avec une fille de Harki, j'étais étranger et il y avait une résistance très forte que je comprenais d'ailleurs très bien hein, de par ce qu'ils avaient vécu au cours de ces 40 dernières années. Et effectivement, progressivement, en fait, j'ai vraiment réussi à à comprendre, je pense, la distance, le silence dont ils avaient besoin, la compassion. C'est toujours, en fait, une vraie réflexion, en fait, d'approche, savoir effectivement à quelle distance avec lui est-ce que je peux être ou pas. Et ça a été quelque chose qui m'a énormément appris, en fait, mais qui a été très dur, très très dur. J'ai mis énormément de temps à revenir de ce voyage, qui était pourtant l'un des plus proches, finalement, que j'ai pu faire. Ça a été très perturbant, extrêmement perturbant. Que ce soit les conditions de vie, les histoires vécues par ces familles. Et en tant que Français, de se retrouver finalement face à une des pages noires de l'histoire de France contemporaine, qui en plus se rattache à la guerre d'Algérie, qui est toujours un sujet sur lequel on a énormément de mal aujourd'hui, hein, même encore aujourd'hui, à revenir. Et l'histoire des harkis, pour moi, est un des fondements, en fait, de toute la problématique de la politique migratoire et du rapport qu'on peut avoir avec l'immigration encore aujourd'hui en France. C'est vrai que c'était très complexe et j'ai mis du temps, effectivement, à retrouver mon énergie vitale, on va dire.
Alors, même que vous aviez couvert des conflits, des guerres, vous racontez parfois que vous aviez failli être tué à Sarajevo. Et c'est ce sujet-là qui a été le plus douloureux.
En fait, je pense que la distance, ou j'allais dire même comment l'exotisme de la situation, n'a pas d'influence, réellement, je pense, sur la réalité émotionnelle qu'on perçoit. La violence, comment, d'une situation très près de chez vous, comment... parfois être encore plus violente. C'est aussi votre quotidien, c'est un rapport direct. Quelque part, vous êtes impliqué aussi, comment directement, historiquement, comment dedans, ou socialement, économiquement, politiquement. Donc, je suis beaucoup revenu, effectivement, aussi de cette vision très, très exotique qu'on peut avoir sur les photographes de guerre, l'univers de la photographie de guerre. On est des je pense que déjà je me définis pas du tout comme photographe de guerre, hein. Je suis tombé dedans accidentellement, mais les gens qui pratiquent cette photographie sont des adultes très conscients de ce qu'ils font et voilà, c'est effectivement compliqué, mais je pense qu'il y a des situations du quotidien ou dans des situations effectivement comme ça qui sont très violentes. Récemment, j'ai fait une série un peu sous le même principe que la Corée du Nord, mais dans le 93, qui est exposée au Stade de France sur la diversité. Et c'est pareil, je me suis retrouvé dans des situations de détresse sociale. Honnêtement, ça remue. Hein. C'est quelqu'un qui est en difficulté, qui soit à 600 mètres de chez vous ou à 4000 km, moi, ça me remue autant. Hein. Je ne vois pas de différence, en fait.
Parce que vous avez décidé aujourd'hui de plus faire de reportages de guerre.
Ça fait un moment. Les reportages de guerre, c'était vraiment, c'était accidentel. C'est-à-dire que quand je pars en Afghanistan pour monter la première fois cette expédition au nord-est de l'Afghanistan et rentrer, aller jusqu'au bout du Waran, pour trouver les sources de la Moudaria et retrouver les Kirghizes, je tombe dans la guerre civile afghane, en fait. Et je rencontre Steve McCurry qui m'écoute et qui me dit « Moi, je pars, si tu veux, je te laisse mon fixeur. » Mais tout le monde a quitté le pays parce que c'est vraiment le chaos. Et je rentre, en fait, en Afghanistan, avec mon barda, je rentre, je passe la frontière clandestinement. Il me fait passer la Mirwais, me fait passer la frontière clandestinement, déjà, comment de la zone tampon entre l'Afghanistan et le Pakistan, puis l'Afghanistan. Et j'arrive en pleine guerre civile. Et en fait, tout bascule en 5 jours. Je suis capturé, je suis condamné à mort. Et à ce moment-là, je sors de là et je décide de rester. Et je vais y vivre quasiment pendant 2 ans par intermittence, mais sur des périodes assez longues, de chaque fois de 6-7 mois. Mais c'est accidentel. Non, j'ai arrêté.
Mais après ça, vous êtes retourné sur des territoires en guerre.
Je suis retourné sur des territoires en guerre, mais pour y faire plus des reportages de fond. J'ai toujours finalement travaillé dans des zones compliquées. Effectivement, ouais. Toujours sur des terrains, sur des terrains compliqués. Mais aujourd'hui, le conflit en tant que tel, en fait, ne m'intéresse plus, non.
Et alors, à Arles, cette année, vous exposez une série de portraits nord-coréens. Comment est-ce que vous avez décidé de travailler sur cette série ?
C'est un peu un millefeuille, c'est-à-dire que ça part d'une fascination pour la Corée du Nord relativement basique. Quand je dis relativement basique, c'est que je pense qu'il y a une fascination générale, collective, en fait, pour la Corée du Nord, qui vient, je pense, du fait qu'effectivement, on a aucune information et très peu de visuels, hein, très peu de choses, que ce soit à travers le langage, la littérature, la photographie. Il y a très peu de choses qui en sortent. Donc, ce vide génère aussi un fantasme qui permet beaucoup de choses. Donc, effectivement, j'ai aussi été pris dedans. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais commencé à m'y intéresser. J'avais fait une demande, je crois, il y a 15 ans, 10-15 ans, qui m'avait été refusée. Puis, j'avais continué à suivre ça et à essayer un peu de lire et de rester connecté. Mais c'était très, très pauvre. Et j'étais marqué par le fait qu'effectivement, dans les médias, en fait, quand on parle de Corée du Nord, on parle de Kim Jong-un, de tensions internationales, d'armes nucléaires, mais très peu, en fait, finalement, de la population, à part, effectivement, dans les années 2000, au moment de la famine, qui est restée encore aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a encore une famine en Corée du Nord, même s'ils ne sont pas autosuffisants. On est loin de là, heureusement pour eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont vécu des moments vraiment terribles. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais être amené à travailler en Corée du Sud. Et le premier sujet que je fais en Corée du Sud, je rentre chez Hyundai, à Ulsan, dans le plus grand chantier naval du monde. Et là, j'y passe 10 jours en immersion. Et c'est un choc parce que je suis en Corée du Sud, pays démocratique, en tout cas depuis 1980 à peu près, et je me retrouve en fait dans une société privée qui est en fait un régime autoritaire à part entière. On est dans une société privée où l'ouvrier vit dans un immeuble Hyundai, fait ses courses dans un supermarché Hyundai, envoie ses enfants dans une école Hyundai, va à l'hôpital, dans un hôpital Hyundai, conduit une Hyundai, son vélo c'est un Hyundai, il part en vacances avec le Hyundai, il se marie avec une femme Hyundai, et ça m'a perturbé parce qu'en fait ça ressemblait un peu à ce que je pouvais imaginer en fait de la Corée du Nord. Ça m'a amené effectivement à me poser une question, effectivement, politiquement un peu incorrect dans notre univers occidental, à savoir quelle était la place finalement de la population dans le fait que ce régime ait survécu 70 années après avoir perdu en 89 ses appuis politiques et économiques, subi un embargo qui est encore en cours, hein, un des plus stricts de l'histoire. Je ne crois pas tellement au hasard et je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, finalement, l'histoire de ce peuple, leur parcours, hein, ces derniers siècles, est peut-être aussi une explication au fait que ce régime autoritaire, dictatorial, cette dynastie des Kim se soit installée là, en fait. Et j'entendais pas par là le fait que ils en étaient responsables ou que quelque part ils étaient heureux de vivre là-dedans, mais que finalement simplement que tout le système effectivement social, religieux, politique et historique ne serait pas étranger en fait à l'arrivée de ce régime-là, et j'avais envie de voir en fait effectivement à quoi il ressemblait. Et puis ça fait maintenant des années effectivement que je fais beaucoup plus de portraits et que je me suis vraiment focalisé sur ce côté, pour moi, plus humaniste, en fait, dans ma démarche. Et j'avais envie, en fait, de réaliser un portrait de la société nord-coréenne.
Et alors, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Quelles étaient les contraintes? Qu'est-ce que vous aviez comme autorisation?
J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le représentant de Corée du Nord à Paris, et de pouvoir faire passer en fait un projet aussi en Corée du Nord par un biais qui n'était pas le biais classique par lequel pouvaient passer les médias. Je voulais surtout pas rentrer dans une démarche qui soit une démarche journalistique et que ce soit un reportage. Et je sais plus tellement ce que je fais dans ma démarche personnelle, c'est plus du tout ce que je fais. J'avais envie d'être dans la sérialité et donc je suis arrivé avec un projet extrêmement précis, détaillé, avec des exemples de ce que j'avais pu faire avant, Et j'ai pris en fait en considération les contraintes qui allaient m'être imposées. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à rentrer en résistance contre les contraintes qui m'allaient être imposées, et avec l'expérience des dictatures, je savais que la Corée du Nord, je rentrais dans un niveau de contrôle qui était absolu, total. J'ai préféré essayer de m'appuyer finalement là-dessus et d'utiliser ce contrôle pour essayer de me créer en fait un espace de liberté. Donc, je suis arrivé avec quelque chose d'extrêmement précis qui était de réaliser un portrait de la société nord-coréenne en leur expliquant très clairement que je ne photographierais pas de lieux vides ni d'architecture. Ce qui m'intéressait, c'était le peuple, réaliser des portraits. Et que je souhaitais réaliser des portraits principalement de plein pied, de manière frontale, où les gens effectivement me regardaient, mais que simplement je voulais pouvoir effectivement choisir les lieux et les personnes que j'allais photographier, que je travaillais avec des flashs et que donc je serais statique. Et donc pour eux, ça avait deux avantages. Un, j'étais absolument contrôlable. Même si moi, pour moi, ce qui était important, c'était d'être statique, parce qu'effectivement, quand vous êtes constamment accompagné ou suivi, le meilleur moyen de pouvoir reprendre la main, c'est de vous arrêter. C'est pas d'accélérer. Et d'autre part, quelque part, en reprenant volontairement les codes de la propagande, et plus largement les codes de l'icône, parce que c'est important pour moi, c'est-à-dire que l'icône religieuse qui est pour moi l'ancêtre de la publicité moderne, à savoir une image frontale, extrêmement lisible, très compréhensible, plutôt plaisante à regarder, colorée. Reprendre cette codification-là qui s'apparente aussi quelque part un peu à cette propagande iconographique qu'on a dans la photographie soviétique ou chinoise. Donc quelque part, je leur donnais à voir quelque chose qu'ils pouvaient comprendre, qu'ils pouvaient presque comprendre. Le presque, il est important. Pourquoi ? Parce que, en fait, je jouais justement sur le fait que je pensais, alors je ne pensais pas à ce niveau-là, hein, mais je pensais qu'effectivement qu'on n'aurait aucun référent commun, que ce soit de référents sociaux, historiques, politiques, culturels, iconographiques, communs, et qu'on n'allait pas voir effectivement les mêmes choses. Quand je dis ça, c'est sans prétention. C'est pas je suis pas en train d'essayer de dire que je les prenais pour des idiots. C'est que c'était valable dans l'autre sens également. C'est-à-dire que je n'ai jamais véritablement compris ce que eux voyaient à travers mes images. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, s'ils m'ont laissé travailler au cours de 5 voyages et pendant 3 ans, c'est que quelque part, à la fin, ils se reconnaissent quelque part dans cette série-là. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire de m'appuyer, ce que je disais tout à l'heure, sur ce qu'on me donnait à voir.
Et vous dites aussi, dans la présentation de l'exposition, que vous surjouez le dispositif de rue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ce que ça veut dire, c'est que vous avez des gens qui n'ont jamais été en contact. Je vais reprendre. Ce que ça veut dire, c'est que on me donne à voir une société qui est totalement théâtralisée. Qui n'est pas théâtralisée pour l'étranger. Il y a tellement peu de gens qui seront en Corée du Nord. Qui est théâtralisée parce qu'ils sont dans un rapport à l'esthétisme, à la perfection, à la propreté, à l'ordre, à l'uniformisation, où la singularité... La singularité n'a pas de place. L'individu n'existe qu'à partir du moment où il fonctionne dans et pour le collectif. Et donc, moi, je me suis appuyé là-dessus. Et effectivement, quand je dis que j'ai surjoué, c'est-à-dire que j'ai surjoué en surjouant l'esthétisation, parce que le flash, effectivement, me permet d'avoir un contrôle sur la couleur et finalement, quelque part, de les mettre en lumière. De le surjouer parce que dans la composition, comment je suis dans une rigidité absolue, parce que dans la codification, la propagande, on ne coupe pas les têtes, on ne coupe pas les immeubles, les statues, on préserve l'entité. Il y a un côté totalement irréel, mais alors, irréel quand on voit les images aussi, c'est-à-dire qu'on se pose la question, effectivement, frontière entre le réel et l'irréel, Mais c'est ce que j'ai perçu moi, c'est-à-dire que où est la frontière effectivement entre le réel et l'irréel? Je sais très bien que ce qui m'est donné à voir n'est pas fait pour moi. Je veux dire, puis il y a plein de situations où les choses se sont passées de façon quand même imprévue, où le conflit aussi, comment l'interaction avec eux, conflictuelle ou non, me montrait qu'on était dans des situations qui étaient des situations de vie quotidienne. Mais on est dans quelque chose qui est complètement irréel. Donc j'ai joué avec ça aussi, finalement, en décrochant les personnages du fond, en jouant avec les codes couleurs et cette rigidité pour rentrer dans quelque chose qui était, oui, à la limite, je dirais, un peu de l'absurde, du surréalisme, avec un petit pointe d'humour, j'espère, qu'on perçoit aussi dans les images. Quand j'ai dit humour, c'est pas de me moquer, mais forcément, c'est... moi aussi, ça m'interpellait. Moi aussi, je trouvais ça effectivement surréaliste et fou. Et puis, c'est mon regard. J'aime ce décalage. J'aime ce décalage avec effectivement ce côté un peu absurde et irréel.
Et pour eux, ça devait être très singulier aussi d'être pris en photo comme ça et par un photographe étranger. Quel était leur rapport à vos sujets, à vous, à la prise de contact, ensuite au fait de poser pour vous?
Alors oui, pour eux, c'était pour eux et pour moi, c'était complexe. Déjà, il y a une chose importante, c'est qu'en fait, le portrait individuel n'existe pas en fait en Corée du Nord. Quand je dis il n'existe pas, c'est-à-dire que encore une fois, l'individu n'existe que dans le collectif. Donc en fait, finalement, vous êtes photographié à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, en groupe, à l'armée, en groupe, au travail, que ce soit à l'usine, comme dans les champs, en groupe. Vous allez vous retrouver effectivement photographié lors de votre mariage, en famille ou en couple. Mais le portrait individuel n'a qu'une valeur de reconnaissance sociale. Pour les papiers d'identité, les cartes du parti, voilà. Et dans la rue, et dans les intérieurs, finalement, il y a très peu de portraits. Il y a des portraits du fondateur et de son fils. Il n'y a même pas de portrait de Kim Jong-un dans la rue ou dans les intérieurs. Et pas de portrait individuel des gens. Donc effectivement, il y avait ce côté, cette surprise déjà pour eux, que je propose ce portrait individuel, et pour les gens, effectivement, dans la rue, qui d'un seul coup voyaient un étranger, dans un premier temps, rester à l'écart, et ses accompagnants venant vers lui pour lui demander s'ils étaient effectivement d'accord pour être photographiés, avec effectivement un moment de surprise, parfois d'inquiétude, des refus, mais un peu comme partout ailleurs, finalement. Je dirais qu'en taux de refus, je n'ai pas eu beaucoup en extérieur dans la rue. Et parfois de la fierté, parfois de la crainte, clairement. Et j'ai conservé tout ça parce qu'en fait, mon objectif n'était pas de rentrer en contact avec eux par le langage, justement. Parce que de toute façon, je passais par le filtre de mes accompagnants. Donc... la valeur de l'échange aurait été nulle, mais simplement à travers en fait le langage photographique et mon langage corporel, mais en leur donnant aucune indication. C'est-à-dire, je leur demandais simplement de se positionner à un endroit et ensuite ils se positionnaient comme ils le souhaitaient et avaient l'attitude qu'ils avaient. Donc en fait, on perçoit, je pense, sur les images à la fois parfois de la décontraction, rarement, la morgue nationaliste, la fierté. Et surtout, je pense aussi le stress intérieur, de façon très, très forte et très marquée.
Et vous pensez que ces images, elles racontent aussi à un moment donné un dialogue entre deux cultures, entre vous, votre regard et cette crainte-là de ces individus-là face à vous et au regard que vous posez sur eux?
Ben, j'espère, parce que c'était quand même aussi l'objectif de cette série, c'est-à-dire d'avoir un effet miroir, ce que j'appelle le portrait miroir. C'est-à-dire que, in fine, vous vous retrouvez en tant que spectateur face à des Nord-Coréens qui vous regardent. On ne parle plus de moi, en fait. On parle de vous et eux, quand vous regardez les images, vous êtes dans un face-à-face. Et j'aime ce rapport miroir, parce que je pense que dans le portrait, et surtout dans ce portrait miroir, il y a un jeu où on en apprend finalement presque autant sur celui qu'on regarde que sur soi-même. C'est-à-dire que forcément, il y a un effet de comparaison. Et je pense que le fait que cette série existe nous montre en fait une partie de ce qu'ils, de la façon dont ils se perçoivent eux aussi, à travers mon filtre, à travers mon regard, et le fait que j'ai surjoué effectivement avec le procédé photographique et mes choix cette situation de théâtralisation et de rigidité absolue et de contrôle absolu qu'on m'a imposé.
Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pu raconter en mots.
Ah, est-ce que j'aurais pu raconter ça en mots si j'avais des dons d'écrivain, peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Jamais encore, effectivement, vraiment. Jean Echenoz l'a quand même décrit de façon relativement forte, mais non, j'aurais été incapable de le faire avec des mots.
Et alors, une dernière question, je vous ai entendu dire en interview, je crois, que vous vous sentiez vraiment photographe que depuis quelques années. C'est dû à quoi ?
C'est dû, effectivement, je me sens photographe depuis environ 5 ans parce que je crois aujourd'hui que tout est aligné, c'est-à-dire que je me sens à l'aise à la fois dans ma technique, dans mon propos photographique, et dans la façon dont je les réalise. En fait, ça a vraiment pris comment tout son sens. Je me suis cherché. Je pense que j'ai eu un chemin chaotique, assez douloureux. Je dis ça, il y a bien pire, mais ça a été compliqué effectivement pour moi de revenir de la guerre, d'une part, et puis d'affiner véritablement ce que j'avais envie de dire et de faire passer en fait à travers les images, à travers le langage des images. Et je ne renie absolument pas ce que j'ai fait avant, parce qu'il y a vraiment des histoires et des projets qui ont un sens extrêmement fort pour moi et qui m'ont permis de grandir et d'avancer. Mais effectivement, aujourd'hui, à travers ces séries, à travers ces portraits, j'ai véritablement trouvé en fait un sens, même si demain je reviendrai certainement aussi à d'autres formes d'écriture, parce que la photographie, la technique photographique, c'est comme une grammaire. Donc en fait, effectivement, on peut utiliser différentes choses à travers le flou, à travers le cadrage, à travers plein d'éléments. Mais aujourd'hui, je me sens en pleine possession de ça. En fait, je me sens à l'aise dans mon langage à moi. Ouais.
Les rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 26 septembre 2021. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Stéphane Gladieu au Jardin d'été. Louis Média est partenaire des rencontres et invite à cette occasion plusieurs des artistes présents à Arles dans ses podcasts Émotion, Travail en cours et Fracas, que nous vous invitons à découvrir. Je suis Charlotte Pudlowski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Tristan Mazir. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour. Je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.